Yo yo yo.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour à tous et à toutes.
Bonjour chers auditeurs.
C'est l'heure de l'atelier sur Prune.
Fallait juste utiliser ton prénom.
Un espace sonore dédié aux créations, émissions et fictions. Réalisé dans le cadre de nos ateliers radio.
La musique du matin au soir.
C'est ça qui vient d'enregistrer pas.
L'école et la résistance. Une émission proposée par les élèves de seconde du lycée Gabriel Déhaye.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 16h49, nous sommes aujourd'hui sur Radio Prune pour parler de l'école et de la résistance. Nous accueillons dans cette émission spéciale enregistrée le lundi 20 mars, 4 invités. Nous avons à ma droite Margot. Alors vous allez nous parler dans un premier temps de ce qu'était l'école de la 3ème République et surtout comment l'école change après la défaite française avec au nord une zone occupée par l'Allemagne nazie et au sud le régime de Vichy avec le maréchal Pétain qui va brutaliser et déconstruire l'école républicaine. À ma gauche, nous retrouvons Mathias qui va justement nous raconter l'histoire des personnes victimes des déportations durant l'occupation nazie. À sa droite, Robin. Alors Robin, vous allez nous parler plus tard dans cette émission des résistances qui ont eu lieu au sein des collèges et lycées de France avec notamment l'histoire des 5 martyrs du lycée Buffon et de l'un de leurs professeurs, Raymond Burgard. Enfin, nous avons avec nous cet après-midi Nathan et qui va nous raconter comment la République a reconstruit l'école après la guerre et nous montrer comment l'école s'est transformée après le régime de Vichy et l'occupation nazie avec entre autres le plan Langevin Wallon. Maintenant que les présentations sont faites, nous allons débuter cette émission avec vous Margot. Alors dites-nous, comment était l'école avant la défaite française sous la 3ème République ?
Tout d'abord, il faut savoir que l'école était un pilier fondamental de la 3ème République. En effet, l'école a joué un rôle très important pour diffuser ses valeurs. Pour décrire rapidement comment était organisé le système scolaire avant la guerre, je peux dire que l'enseignement primaire devait accueillir tous les élèves de 6 à 13 ans. À la fin de l'école primaire élémentaire, à 11 ans, les élèves passaient le certificat d'études, qui est le seul diplôme obtenu par la plupart des enfants de France durant leur scolarité. La grande majorité des élèves restaient 2 années supplémentaires dans la classe de fin d'études avant d'entrer dans la vie professionnelle. Le secondaire devait préparer au baccalauréat, étape indispensable pour accéder à l'université. Rappelons que le nombre de bacheliers n'était que de 27 000 en 1939. L'enseignement supérieur n'était donc ouvert qu'à un faible nombre d'étudiants, pour la plupart issus des milieux les plus aisés. Au début des années 1930, le système scolaire de la France est donc fondamentalement inégalitaire. Entre le premier degré destiné à une large majorité des enfants issus des catégories populaires et le second degré réservé à une petite minorité d'entre eux issus des catégories les plus aisées. La gratuité du secondaire est définitivement instituée en 1933, mais pour éviter une augmentation soudaine des effectifs, on instaure un examen d'entrée en classe de 6e.
Alors, comment cette école va s'organiser sous le régime de Vichy ? Qu'est-ce qui change avec l'école républicaine d'avant-guerre ?
Comme je l'ai dit, l'école est un pilier de la 3ème République. Elle devient une cible prioritaire pour Vichy afin d'enraciner l'idéologie de la Révolution nationale du maréchal Pétain. Ainsi, Vichy règle ses comptes avec la République car ils la tiennent pour responsable de la défaite de juin. Ils vont donc mettre en place plusieurs lois afin d'en sanctionner les fonctionnaires et les enseignements qu'ils jugent éléments de désordre. Par exemple, la loi du 17 juillet 1940 permet de révoquer tout fonctionnaire considéré comme trop républicain. De plus, avec la loi du 18 septembre, tous les syndicats de l'enseignement sont dissous. Dans un second temps, Vichy va tenter d'effacer l'héritage révolutionnaire et républicain en retravaillant les programmes scolaires et l'histoire en particulier. Ainsi, les figures comme Jeanne d'Arc et Louis IX ou encore Charlemagne sont mis en avant. L'objectif du régime de Vichy est ainsi de détruire les valeurs défendues par la République. L'école est ainsi le lieu d'un combat idéologique. Les élèves doivent donc être encadrés et surveillés par le régime de Vichy. Par exemple, dès la rentrée 1940, une intense propagande est organisée à destination de l'école. Les écoliers sont ainsi invités à écrire au maréchal Pétain ou à lui adresser un dessin. L'année suivante, les élèves doivent décorer leur salle de classe afin d'honorer de grandes figures de l'histoire de France, dont le maréchal Pétain. En 1941, il est décidé que le drapeau français doit être hissé dans les établissements scolaires deux fois par semaine. Le portrait du maréchal Pétain doit être affiché au-dessus du bureau de l'instituteur. Les élèves doivent apprendre « Maréchal nous voilà », devenu l'hymne officieux de l'État français. Il doit être chanté tous les jours. Enfin, la guerre a aussi des conséquences sur le vécu, le quotidien des élèves et des enseignants. Cependant, l'école continue toujours, tant bien que mal. Rapidement, tout manque. Le matériel scolaire de base est rationné, le chauffage est insuffisant, l'alimentation est appauvrie. Les restrictions sur le papier pénalisent particulièrement l'école, notamment pour les cahiers, l'ardoise est privilégiée. Les livres, tous les élèves n'en ont pas. Les écoliers sont mobilisés au ramassage des récoltes ou à la chasse aux doryphores qui ravagent les plantations de pommes de terre. Les heures nécessaires sont prises sur les congés du jeudi et sur les heures de cours. Les pénuries n'ont pas que des conséquences sur les conditions du travail des élèves, elles ont un impact profond sur leur santé. Dès 1941, les rapports alarmants se multiplient sur l'état sanitaire des enfants, surtout dans les grandes villes. En février 1942, face à l'épuisement physique et psychologique constaté un peu partout, le ministère réduit les horaires d'éducation physique et préconise d'éviter tout surmenage intellectuel. Les études faites à la Libération sur la population des adolescents de 14 ans montrent que la génération de 1945 a perdu en moyenne de 7 à 11 cm en taille et 7 à 9 kg en poids par rapport à la génération de 1935 du fait des carences alimentaires durant la guerre. En conclusion, s'il fallait retenir une idée principale, je dirais que l'école continuait toujours, tant bien que mal, en devenant non plus un pilier de la Troisième République, mais du régime de Vichy.
Alors, on vient de voir l'organisation de l'école sous le régime de Vichy. Ma question, c'est comment l'école va s'organiser de l'autre côté de la ligne de démarcation dans la zone sous occupation nazie.
Après l'entrée en guerre en septembre 1939, les établissements sur la zone de front sont évacués vers l'arrière selon des plans prévus à l'avance. C'est le cas pour l'Alsace. Élèves et enseignants sont déplacés dans le sud-ouest et le centre de la France. L'université de Strasbourg est transférée à Clermont-Ferrand. Par crainte des bombardements sur la région parisienne, plusieurs dizaines de milliers d'enfants de Paris et de sa banlieue sont évacués dans les régions rurales, comme la Bretagne, Normandie, l'Auvergne, Bourgogne, où ils sont accueillis chez l'habitant. D'autres sont maintenus dans le lieu de séjour où ils passaient les vacances d'été. L'offensive allemande de mai 1940 rend la situation catastrophique. 90 000 enfants sont déclarés perdus sur les routes de l'Exode. Heureusement, presque tous peuvent retrouver leurs parents dans les mois qui suivent. En 1940, beaucoup de bâtiments scolaires sont détruits dans les zones de combat, au nord et à l'est. Tout au long de la guerre, et particulièrement en 1944, les bombardements frappent les écoles.
Je vous remercie Margot pour nous avoir dressé ce tableau sur l'école d'avant-guerre et durant la guerre. Il est vrai que l'école a drastiquement changé, beaucoup ont été directement impactés par cela, avec notamment des mesures anti-juives à leur égard. Et justement, c'est vous Mathias qui allez nous parler des victimes de cette période, qu'ils soient enseignants ou élèves.
Pour répondre à votre question, il faut savoir que Vichy va mettre en place de nouvelles règles et lois antisémites dès 1940. Parmi les lois les plus importantes, on retrouve notamment les lois du 3 octobre 1940 et du 2 mai 1941, qui définissent l'appartenance à la race juive et le champ d'interdiction professionnelle. Ces lois vont ainsi permettre à Vichy de licencier 2000 enseignants définis par la loi comme étant juifs. Les enfants juifs sont également visés par les lois antisémites. Comme événements notables liés aux lois antisémites et qui ont touché les enfants, on retrouve notamment la rafle du Veldiv. En effet, du 16 au 17 juillet 1942 à Paris, a eu lieu la plus grande arrestation massive de juifs en France. On dénombre pas moins de 4000 enfants juifs qui furent embarqués par la police ce jour-là. En effet, au cours de l'été 1942, le régime de Vichy négocie avec les responsables de la police allemande un accord pour leur livrer 10 000 juifs dans la zone non occupée et 20 000 juifs dans la zone occupée. Pour tenir ces engagements, le gouvernement français exécute les grandes rafles de l'été 1942. La France non occupée est alors la seule zone en Europe où les autorités compétentes livrent de leur propre initiative des juifs aux nazis. La France non occupée est alors la seule zone en Europe où les autorités compétentes livrent de leur propre initiative des Juifs aux nazis. Au mois de juillet 1942, le gouvernement de Vichy demande aux Allemands l'autorisation de déporter les enfants de moins de 16 ans, jusqu'alors exclus des convois de déportation. Les autorités allemandes acceptent cette demande et le 14 août 1942, le premier convoi incluant des enfants part de Drancy en direction d'Auschwitz. Les maisons d'enfants de la zone non occupée ne sont plus des refuges sûrs. De nombreuses familles des enfants qui seront accueillis à Izieux sont internées dans les camps du sud de la France, parfois pendant plusieurs années. Enfin, pour finir, je voudrais vous parler de l'histoire de la fameuse maison d'Izieux. À la demande du préfet de l'Hérault, investi dans le sauvetage des enfants juifs, Sabine et Mironze Latin partent au printemps 1943 avec quelques enfants vers la partie de l'Ain sous l'occupation italienne. Ils ont recommandé à Pierre-Marcel Witzel, sous-préfet de Belley. Mais le 6 avril 1944, alors que Gabriel Parier s'était absenté, la Gestapo a débarqué à la maison d'Izieux sous ordre de Klaus Barbie et ont ainsi fermé l'établissement après avoir arrêté et déporté les 44 enfants d'Izieux et 7 adultes juifs.
Merci à vous Mathias. Alors on retrouve désormais Robin. Alors on a pu voir il y a un instant que l'occupation nazie a eu un impact direct sur l'école et a changé son mode de fonctionnement. Alors dites-nous, est-ce que des actes de résistance ont émané de cette école ?
Alors il est important de rappeler que durant la Seconde Guerre mondiale, la résistance n'a jamais cessé d'exister. Et elle a été présente dans tous les secteurs d'activité. Mais il est vrai que des actes de résistance ont eu lieu au sein de l'éducation nationale. En effet, ils se sont battus durant toute la guerre et n'ont jamais arrêté d'innover leur plan d'attaque contre l'occupation nazie. De plus, la résistance a permis de montrer que l'école était non seulement un excellent moyen d'opérer discrètement, mais également un outil efficace permettant de propager la résistance. En effet, nombreux sont les professeurs qui ont œuvré dans la résistance, à l'exemple de François de Menton, fondateur d'un des mouvements de résistance les plus importants, le mouvement Liberté, permettant la diffusion d'un journal clandestin, accompagné d'autres professeurs qui ont résisté à ses côtés. Parmi ces professeurs, on retrouve des figures de la résistance comme Lucie Aubrac, Marc Bloch et Henri Frenet, qui aura d'ailleurs fusionné son journal avec celui de François de Menton, créant ainsi le journal Combat. Une autre figure de la résistance dans l'éducation nationale est Raymond Burgard, qui est le fondateur du mouvement Valmy. Professeur dans le lycée Buffon, il enseignera en tant que professeur de lettres. Ce qui le sortait du lot parmi les autres figures, c'est que son but n'était pas de faire de la prévention contre l'occupation allemande, mais de directement s'attaquer à l'occupation allemande elle-même avec des lettres rédigées en allemand destinées à littéralement détruire le moral des soldats.
D'accord, alors on voit qu'une partie des professeurs se sont tout de même mobilisés et ont utilisé l'école comme un moyen de propager la résistance. Alors, est-ce que le corps étudiant a lui aussi participé à ces mouvements de résistance ?
Alors oui, tout à fait. Il y a eu lieu à plusieurs reprises des actes de résistance menés par des élèves envers l'occupation allemande. Car oui, si vous ne le saviez pas, les élèves ont eu le droit de rentrer dans la résistance et de prêter main forte aux distributions de tracts, d'affiches. Car non seulement de paraître innocents, ils étaient aussi beaucoup plus nombreux que les professeurs et avaient un grand entourage. Alors évidemment, cela part des actes de résistance simples, allant du refus d'écrire une lettre au maréchal Pétain, ce qui a été le cas d'Esther Godin, là où sa classe la rejoindra dans son mouvement de protestation, jusqu'à l'inscription de nombreux V, croix de Lorraine et de fossiers marteaux, tracés avec des craies, du charbon, de la peinture, ou directement gravés sur les arbres, murs, affiches, toujours dans le but de répandre le mouvement de la résistance. À savoir que la majorité des résistants pratiquaient ces mouvements, évidemment dans le but de ne pas avoir de grosses représailles par les forces de l'ordre. Cela étant dit, on peut rentrer dans une catégorie différente d'actes avec l'exemple de l'un des mouvements de résistance les plus connus chez les élèves durant la guerre, étant la manifestation du 11 novembre 1940, qui a été organisée par des élèves du lycée Clémenceau devant la flamme du soldat inconnu, ou aux Champs-Élysées pour exprimer leur mécontentement face à l'accord entre la France et l'Allemagne. Cette manifestation aura réuni à elle seule plus de 5000 manifestants, tous rassemblés pour huer le maréchal Pétain, et Hitler devant les soldats allemands installés dans les cafés. Cette manifestation aura été si importante que les forces de police n'auront même pas réussi à disperser la foule, et il aura fallu que l'armée intervienne afin de disperser la foule en tirant à l'aveugle. Mais voyez-vous, ce n'est pas le seul mouvement de résistance réalisé par des lycéens. Par exemple, lorsque les cours ont repris à l'université de la Sorbonne en 1940, les élèves vont mener des actions de protestation contre la présence allemande avec des distributions de tracts, des inscriptions sur les murs. Il y aura même des bagarres qui vont éclater entre élèves et soldats allemands dans les cafés des quartiers étudiants. Par conséquent, cela entraînera la fermeture de multiples établissements scolaires, dont celui de la Sorbonne, évidemment. Malgré ça, les distributions de tracts sont de plus en plus récurrentes, allant même jusqu'aux Champs-Élysées. Il existe certes des figures du côté enseignant, mais aussi du côté élève. Là où, si nous en revenons à l'histoire de Raymond Burgard, il aura enseigné au lycée Buffon en tant que professeur de lettres, mais aura cependant été arrêté le 2 avril 1942 à la suite du démantèlement de son journal. Dans le lycée, cela a suscité la réaction de beaucoup d'élèves, notamment celle de 5 jeunes qui sortent du lot, avec Jean-Marie Artus âgé de 15 ans, Jacques Baudry âgé de 18 ans, Pierre Benoît âgé de 15 ans, Pierre Grelot âgé de 17 ans et Lucien Legros âgé de 16 ans. Ces jeunes étudiants auront déjà lutté au passé contre l'occupation allemande en participant non seulement à la manifestation de 1940, mais aussi à la distribution de tracts, allant même jusqu'à imprimer ces tracts depuis chez eux. Cependant, l'arrestation de leur professeur Raymond Burgard fera réagir les cinq jeunes, créant alors une manifestation le 16 avril 1942, là où ils seront reconnus et affichés dans les rues comme personnes dangereuses. Après quoi, ils iront bien plus loin que des distributions de tracts avec une participation dans des attentats, des luttes contre l'armée et j'en passe. Ils seront malheureusement fusillés après un procès. Ils ont énormément marqué les esprits devenant des figures aux yeux des résistants.
Un grand merci à vous, Robin. Comme on a pu le voir, bien que l'école fut déconstruite par l'occupation nazie, les professeurs comme les élèves n'ont pas baissé les bras et ils ont résisté face à l'occupant nazi. Comme vous le savez, le 7 mai 1945, l'Allemagne nazie signe la reddition sans condition de ses armées face aux alliés à Reims. Alors expliquez-nous, Nathan, comment le gouvernement provisoire de la République française, puis la 4ème République, vont faire pour reconstruire l'école après la chute du 3ème Reich et de Vichy.
À la Libération, la première mesure prise est de retirer les portraits de Pétain dans les établissements scolaires. Ensuite, ils ont réfléchi à un plan pour changer l'école. C'est justement avec cet objectif de reconstruction que le plan Langevin-Wallon a été élaboré par la commission ministérielle d'études pour la réforme de l'enseignement avec Paul Langevin puis Henri Wallon, qui sont deux intellectuels du Parti communiste français en 1947. Ce plan consistait à donner accès à tous à un enseignement gratuit, laïque et obligatoire jusqu'à l'âge de 18 ans, et de rattraper le retard en termes du projet d'éducation par rapport aux pays étrangers et de changer le fonctionnement de l'éducation, avec notamment un recrutement des professeurs différents. Le plan Langevin-Wallon préconise aussi des conditions précises d'organisation, des enseignements et une pédagogie active. Il prévoit la création d'un corps de psychologues scolaires et l'organisation d'une éducation morale et civique. Il préconise l'attribution de bourses et la gratuité des études supérieures et envisage la réorganisation de la formation des enseignants. Il insiste enfin sur le nécessaire effort financier qu'implique la mise en œuvre de cette profonde réforme du système éducatif dans un contexte de reconstruction d'après-guerre. Mais ce projet n'est ni discuté par le gouvernement ni présenté devant le Parlement. En effet, en juin 1947, le contexte politique lui est moins favorable, la guerre froide débute, et les ministres communistes sont exclus du gouvernement Ramadi. Le plan Langevin-Wallon et la grande réforme démocratique du système éducatif restent ainsi, pour l'essentiel, lettre morte. Cependant, ce plan constitue depuis une référence, en particulier pour les syndicats et partis politiques de gauche. On peut ainsi constater que l'école n'est pas exclue des sujets de refondation, mais que le contexte économique n'a pas permis à ce projet d'aboutir.
Merci à vous, Nathan. On a pu découvrir au fil de vos interventions que l'école a profondément changé avec la guerre. Comme vous nous l'avez montré, Margot, l'école était en effet un pilier de la Troisième République. Mais le régime mis en place après la défaite française, le régime de Vichy, a profondément changé l'instruction publique. En plus de réformes antisémites encadrant l'école, beaucoup de jeunes ont subi des déportations. Il est vrai que l'on a essayé de mettre en place un plan de reconstruction de l'État, mais comme vous l'avez dit Nathan, le contexte économique ne l'a pas permis. Enfin, je pense qu'il est surtout important de retenir que l'école, que le corps enseignant et étudiant n'ont pas baissé les bras et qu'ils ont résisté face à l'occupant. Un grand merci à vous tous d'avoir participé à cette émission spéciale sur l'école et la résistance. A bientôt sur Prune.
C'était l'école et la résistance. Une émission proposée par les élèves de seconde du lycée Gabriel Déhay dans le cadre du concours national de la résistance et de la déportation. Retrouve l'émission en podcast sur prune.net.
C'était l'atelier sur Prune. Retrouve le podcast de l'émission sur prune.net.
En tout cas, j'étais très content d'être ici et de partager ce moment avec mes amis.